Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Après avoir évoqué le commissaire Jules Maigret et ses enquêtes à la manière d'un diagnostic médical, il me semblait opportun de parler de son concepteur, M. Georges Simenon. D'autant plus que Georges Simenon avait une relation toute particulière avec les médecins et la médecine. Georges Simenon, Georges-Joseph Christian Simenon, naquit dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 février 1903 à Liège. Il décédera à Lausanne le 4 septembre 1989 à 86 ans. Une longue vie, une très longue vie durant laquelle il fut un auteur prolifique. Le lecteur de l'œuvre de Simenon ne peut pas manquer d'être surpris par la haute prévalence de des personnages médicaux que l'on y rencontre, mais de ces généralistes, spécialistes, hospitaliers et universitaires, grands patrons qui existaient à cette époque, et bien sûr des médecins légistes qu'il va faire fréquenter par son personnage principal et essentiel, le commissaire Jules Maigret. Maigret est essentiel, primordial, car il est Simenon. Toute une sémiologie nous permet de poser ce diagnostic. Avec Maigret, Simenon s'écrit lui-même. Georges Simenon est le premier fils de Désiré Simenon, comptable dans un bureau d'assurance. Fils d'un chapelier et d'Henriette Brulle, 13e enfant d'une famille aisée employée dans le magasin L'Innovation. Désiré et Henriette se manièrent le 22 avril 1902. Sa mère avait comme ascendant Gabriel Brulle, un paysan et criminel de la bande des Verbouk qui, à partir de 1726, sous le régime autrichien, écuma le Lenbourg, rapinant fermes et églises et dont les membres finirent pendus en septembre 1743, au gibet de Warbach. Cette ascendance marquera Simenon. On retrouve l'histoire de sa naissance au début de son roman Périgré. Le 21 septembre 1906, naît son frère Christian qui sera l'enfant préféré de sa mère. Il mourra à 41 ans en Indochine en 1947. Perdre une sœur ou un frère est terrible, c'est un des deuils les plus cruels. En perdant un frère, on perd son enfance. Quand il meurt, sa mère dit à Simenon, survivant, « C'est dommage que ce soit Christian qui soit mort. » Elle s'était à 91 ans, sans n'avoir jamais ouvert un seul livre de Georges, ce qui le meurtrira fortement. Ce malaise se retrouve dans les romans comme « Pirt le loton » ou « Le fond de la bouteille ». Un jour de 1916, alors que Simenon n'a que 13 ans, le médecin de famille, le docteur Fischer, le fait appeler pour lui dire que son père n'a pas plus d'une année à vivre, car il sera atteint d'une maladie cardiaque à l'issue fatale. Il va donc vivre l'horreur de pouvoir perdre son père à 14 ans. Il faut donc qu'il travaille et qu'il rentre dans la vie active. Cette révélation va bouleverser Georges. C'est à 18 ans qu'il perdra son père mort d'une angine de poitrine après 4 longues années de pré-deuil. Un enfer qui va marquer à jamais Simenon. En janvier 1919, Simenon est en conflit ouvert avec sa mère au sujet de son emploi. Il est seul, il écrit. La seule chose qui compte dans une vie, une femme, des bambins dans un cadre calme, solide, une maison de pierre, des meubles massifs, lourds. Toute sa vie, il va chercher ce paradis, car sa vie ne sera pas simple. Georges Simenon va avoir 4 enfants. Le premier d'entre eux, Marc, arrive quand Simenon a 36 ans. Il naît de son union avec Régine Ranchon, dite Tigy, sa première femme. Ses 3 autres enfants, Jean, Marie-Jo et Pierre, seront issus de son mariage avec Denise Ouimet. Seul et perdument seul, Simenon a besoin de se dire, de se raconter pour mieux supporter sa solitude et ses angoisses, et notamment ses angoisses de mort, à la suite de ce jour de l'année 1916 où il apprend la possible finitude de son père. Comme beaucoup pour se soigner, il écrit. Il crée des personnages et des situations. Il se crée un personnage d'écrivain, un personnage d'auteur, comme d'autres se créent un personnage d'animateur. Le personnage que Georges Simenon se confectionne de lui-même se retrouve dans cet homme aux 10 000 femmes qu'il prétend être, ce que tout le monde comprend, et comprend que cela ne peut être. En effet, s'il s'était livré 70 ans durant à cette poursuite des femmes, soit 25 500 jours, cela donnerait une moyenne d'une femme différente toutes les 2 jours et demi. En fait, il serait marqué par sa mère, ses 2 épouses, ses maîtresses et surtout par sa fille. L'évocation du séducteur insatiable, pour ne pas dire pathologique, fait partie des ramures de son personnage d'écrivain, au même titre que l'avait fait avant lui Giacomo Casanova, dont il faut absolument lire les mémoires de ma vie. Casanova a 64 ans lorsqu'il entreprend de rédiger ses mémoires. Nous sommes en 1789. Il nous fait surtout vivre la douceur d'un passé que la Révolution française vient d'abolir. Ses descriptions d'une précision absolue montrent que le récit est purement littéraire, bien que l'histoire de ce temps s'y retrouve. Les grands auteurs sont souvent très meurtris. Marcel Pagnol en est aussi un exemple. Marcel Pagnol est le fils de Joseph Pagnol, instituteur à Aubagne, laïque et républicain athée convaincu, et d'Augustine Pauline Henriette Lanceau, couturière à la santé fragile et catholique, un véritable dualisme à l'époque. Ils se marièrent le 28 décembre 1893. Marcel Pagnol sera l'aîné de trois autres enfants. Paul, né en 1898, qui meurt le 28 juillet 1932. Paul était atteint d'une maladie épileptique grave. Il succombera sur la table d'opération. Germaine, née en 1902, et René, née en 1909. Un frère aîné, Maurice, né le 2 avril 1894 et mort le 18 août de la même année, ne sera jamais mentionné dans l'histoire familiale. Maurice aurait été conçu 5 mois avant le mariage de ses parents. Nous comprenons mieux les pièces de Pagnol, Marius, Fanny et César. Marcel Pagnol naît le 28 février 1895 à Aubagne, soit 6 mois après la mort de son frère aîné. La mère de Marcel Pagnol restera à jamais en deuil de ce premier enfant. Est-elle culpabilisée de la date de sa conception? Un deuil d'enfant ne se fait jamais. Est-ce que ce chagrin qui fragilise sa santé, qui l'a fait mourir le 16 juillet 1910 à l'âge de 36 ans. C'est le second drame de cette famille. Marcel n'a que 15 ans à la mort de sa mère, avec qui il entretenait une relation fusionnelle. Il nous dit dans La gloire de mon père, l'âge d'Augustine c'était le mien, parce que ma mère c'était moi. Après le décès de sa mère Augustine, son père se remarie avec Madeleine Julien en 1912. Il avait engagé Madeleine pour s'occuper du ménage, elle n'avait que 8 ans de plus que Marcel, qui l'accepte mal et se brouille avec son père. Il suffit de regarder les films Marius et Fanny, réalisés par Daniel Auteuil, magnifiquement interprétés, sortis en juillet 2013 en France, le même jour, pour se rendre compte des bouleversements qu'a subi Pagnol. Michel Audiard, 1920-1985, est aussi un autre exemple de ces auteurs meurtris. Il naît en fait, Paul-Michel Audiard, dont on ne connaît pas le père, il porte le nom de sa mère, Juliette Angèle Lucie Audiard, qui naît en 1887 et meurt en 1985. Il est élevé dans le quartier populaire du 14e arrondissement à Paris par son parrain. Michel Audiard découvre la littérature et le cinéma avec Rimbaud, Proust ou encore Céline. En 1978, il livre un roman, La nuit, le jour et toutes les autres nuits. Il s'inspire et crée un style basé sur le parler très français de la raillerie du peuple parisien. Il devient le génie des dialogues de films qui élèvent au rang d'un art unique. Beaucoup de jeunes connaissent actuellement ces dialogues par cœur. Le 19 janvier 1975, il est accablé par la mort d'un de ses fils, François, tué dans un accident de voiture. Il n'écoutera plus une profonde tristesse qui donnera à son œuvre une intonation obscure. Mais revenons à Simenon. Il a envisagé d'entreprendre des études médicales. Simenon est un médecin contrarié, inavoué, empêché. Il a fréquenté l'hôpital de Bavière, tout proche de son domicile, lorsqu'il était enfant de cœur et qu'il accompagnait l'aumônier, distribuant aux mourants les sacrements des malades. Simenon a côtoyé nombre de médecins auprès desquels il n'hésitait pas à se documenter sur les maladies. Tout au long de sa vie, il s'est constitué une importante bibliothèque médicale, source d'une documentation fréquemment consultée. Deux professeurs de l'école de médecine liégeoise furent proches du romancier. Le fondateur de la revue médicale de Liège, le professeur Lucien Brulle, était son cousin Germain, et le professeur Fernand Orbin, chirurgien, fut un condisciple de collège. Dans une lettre datée du 9 mai 1985, répondant à un courrier du professeur Pierre Lefebvre de Liège, qui l'interrogeait sur ses relations avec les médecins, l'hôpital et la maladie, Georges Simon écrit « J'ai connu beaucoup de médecins dans ma vie, dans de nombreux pays, des médecins de campagne, des médecins d'hôpitaux, ce qu'on appelle des grands patrons ou des mandarins, et enfin ce qu'on pourrait appeler des médecins mondains. Je vais aussi citer Laurent Desmoulins dans Simenon et la médecine, un lien étroit et complexe lors des journées de Liège le 22 et 23 mai 2019. Les liens qui se sont noués entre l'écrivain Georges Simenon, la médecine et les médecins sont nombreux, pluriels et déjà souvent étudiés. Plus d'un article s'est déjà penché sur cette question qui a même suscité des thèses et des mémoires universitaires. Il s'agit en effet d'un sujet riche et complexe qui ne sera abordé ici que de façon succincte et réductrice. Pour voir clair dans la masse des faits, sans doute faut-il d'abord souligner que la relation est à double sens. Elle va de Simenon vers les médecins et des médecins vers Simenon. Georges Simenon a toujours compté des médecins parmi ses amis, proches, comme il l'écrit dans ses mémoires intimes. Je crois surtout aux médecins, car j'en ai connu beaucoup, aux quatre coins du monde, où j'ai vécu. Mes amis les plus chers étaient des médecins. Je vous propose une coupure musicale aujourd'hui avec la musique de Maigret, l'affaire Saint-Fiacre, film de Denis de la Patelière de 1995, générique et musique.
Thank you.
Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous évoquons aujourd'hui Georges Simenon, le père de Maigret et les médecins. Dans sa lettre du 9 mai 1985 adressée au professeur Pierre Lefebvre, il écrit « Reste ce qu'on appelle les vrais médecins qui sont souvent d'humbles médecins de campagne qui n'hésitent pas à se relever trois fois la nuit en plein hiver pour parcourir des kilomètres vers une ferme isolée. Reste aussi et peut-être sont ceux les plus nombreux, tout au moins je l'espère, ceux qui se considèrent comme voués à la santé ou tout au moins au bien-être physique de leurs malades. Il est cependant dommage que dans certains pays, les médecins, depuis quelques années, n'hésitent pas à se mettre en grève, comme si pendant ces journées-là, la maladie faisait grève aussi. Comme vous le voyez, le profil du médecin dans son esprit n'est pas un profil unique, mais multiforme. Nous pourrions nous questionner sur ce que penserait Georges Simenon de la médecine française actuelle. Si nous nous intéressons à la répartition des personnages médicaux dans l'œuvre de Simenon, près de deux tiers sont des généralistes. 39 sont des médecins dits grands patrons ou des professeurs d'université, sans oublier évidemment les médecins légistes au nombre de 17. Les professions médicales et paramédicales sont également fréquentes dans l'œuvre du romancier. Les personnalités médicales sont souvent présentées sous un angle valorisant, probité professionnelle, connaissance scientifique, voire référence morale. Il existe cependant des exceptions. Parmi les médecins proches de Maigret, le docteur Pardon. Il fallait trouver ce nom. Médecin généraliste, cela ne s'invente pas. Beaucoup de romanciers jouent avec les noms de leurs personnages. Je connais dans un roman le propriétaire d'une écurie qui s'occupe d'un cheval d'un médecin nîmois et qui se nomme Hippolyte. Le docteur Pardon est l'ami et le confident du commissaire Maigret. Les Pardon et les Maigret se voient régulièrement le soir pour dîner. Ils échangent des confidences sur leur vie professionnelle pendant que les épouses conversent. Nous oublions ici, avec Simenon, que ces deux professions sont tenues à une certaine discrétion. Cette relation intime de Maigret argumente ma thèse que Maigret réalise des enquêtes policières à la manière d'un diagnostic médical et que Maigret est bien Simenon. Un autre personnage récurrent chez Maigret est le docteur Paul, qui est un médecin légiste. Il est l'homme de la certification scientifique dont a besoin Simenon. Les personnages de grands patrons apparaissent d'une façon surprenante par leur fréquence. Le professeur Charbot, professeur de gynécologie et aussi, comme cela était fréquent à l'époque, de Simenon, directeur de deux cliniques, est en genre ce que l'on appelle aujourd'hui le burn-out, qui n'existait pas au temps de Simenon. Son burn-out, engendré par le caractère ordinaire et coutumier de sa vie professionnelle et familiale, va générer une brève aventure avec une garde malade de son service et il deviendra meurtrier au terme d'un long et angoissant cheminement. Véritable équivalent suicidaire professionnel, aboutissant d'un burn-out qui est en fait un état dépressif. L'humiliation et l'exclusion sociale dont peuvent souffrir les personnages de Simenon et tout ce qui est terrifiant pour eux est évoqué par Simenon comme s'il s'identifiait à eux. L'exclusion du docteur Cuperus dans L'Assassin en est la preuve. Dans une petite ville de province, le docteur Cuperus, médecin et notable, apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe avec un homme, le sieur Schutter, avocat respecté et envié, que fréquente Cuperus régulièrement au cercle dont ils font tous deux partie. Sa décision est prise. Cuperus décide de tuer sa femme, son amant et de faire disparaître les corps. Le docteur, se sentant de plus en plus seul, exige de sa bonne Neil qu'elle devienne sa maîtresse. Alors avoir commencé tout un jeu de séduction-répulsion entre les deux êtres et parallèlement en ville la rumeur de fait de plus en plus fort quant à l'implication de Cuperus dans la mort de sa femme et de l'avocat. Ce roman est bâti sur une trame simple, dans un style clair, impersonnel et sans fioritures. L'assassin, comme dans un bon nombre de ses romans, va à l'essentiel dans des mots simples, des phrases courtes, avec comme priorité le récit et avant tout le récit. Le roman de Simenon, L'assassin, se veut comme un témoignage ou un regard sur une micro-société qui se contemple vivre où chaque personne épie ou envie une autre. La pression populaire y est si forte qu'elle finira finalement par l'emporter sur le personnage du médecin reclus isolé qui ne peut se résoudre à quitter cette ville qu'il a condamnée, mais à laquelle il se sent attaché. L'assassin est un roman qui fait intervenir le monde médical. Il est à la fois troublant et prenant par sa lecture, ses personnages sont tourmentés et captivants, comme seul Simenon sait les décrire. Simenon voulait être médecin, et le pouvant pas, il se crée pas un héros médecin. Ce serait trop compliqué et cela l'exposerait trop. Il engendre donc un personnage policier qui va pratiquer des enquêtes à la manière d'un diagnostic médical, ou du moins à la manière de ce que Simenon croit être un diagnostic médical. Jules Maigret est créé alors que Simenon n'a que 26 ans. Maigret va vivre et réaliser la médecine de Simenon. Je me propose donc, lors d'une prochaine émission, d'analyser l'identification que réalise Simenon avec le commissaire Jules Maigret, ce qui nous permettra de mieux connaître ce génie de la littérature française qu'était Simenon. Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé, aujourd'hui, les mémoires de Georges Simenon. Mémoire intime, suivi du livre de Marie-Jo de Georges Simenon, 1989. Mai 1978, un terrible drame brise la vie de Georges Simenon. Sa fille Marie-Jo, 25 ans, se suicide de l'avoir trop aimé. L'homme aux quelque 200 romans, aux 500 millions de lecteurs, s'enferme et se tait, jusqu'au jour où il décide de reprendre la plume pour s'adresser à sa fille. Je t'ai dit un jour, je crois même l'avoir écrit, qu'un être ne meurt pas tout à fait quand il reste bien vivant dans le cœur d'un autre. Or, tu es vivante en moi. Si vivante que je t'écris, je te parle comme si tu allais me lire ou m'entendre. Ce livre ne sera pas mon livre, mais le tien. Vous pouvez lire aussi Georges Simenon, Marie-Jo Simenon, Presse de la Cité, 2008. Je me permets de vous citer le résumé. Ma toute petite fille, je sais que tu es morte et pourtant ce n'est pas la première fois que je t'écris. Ce samedi 16 février 1980, Simenon, qui survit douloureusement à la mort de sa fille, qui n'écrit plus depuis près de 10 ans, commence une intime expérience d'écriture. Lui qui avait fait métier de la passion de comprendre son infinie curiosité, de sa sympathie universelle qui l'amenait d'instinct à se placer au cœur des déchirements et des désastres individuels, décide une dernière fois de raconter. De se raconter pour tenter d'atteindre l'inaccessible vérité. Vous pouvez lire aussi Simenon par Pierre Azoline chez Gallimard, 1998. Je me permets de remercier Louis à la technique et pour ses conseils et son accompagnement, et Chalène pour son génie au site internet et au visuel. Je me permets aussi de renouveler mon annonce sur l'adhésion du Radio Alliance, laquelle vous pouvez souscrire, merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.